VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 30 juin 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, nouvel attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Les djihadistes de Boko Haram ont tué un civil à Kerawa, la frontière avec le Nigeria. Combat en RDC entre Mai Mai et FARDC. Deux militaires congolais et six miliciens ont été tués dans le Nord Kivu. Décret anti-immigration ici aux États-Unis. Avocats et militants des droits de l'homme sont dans les aéroports pour apporter une aide juridique aux voyageurs des pays affectés. Retrouvez Yakuba Ouedraogo à la fin de ce journal pour les sports et Timothée Donangmaï pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Pas de répit pour l'armée camerounaise dans la lutte contre le terrorisme. Au lendemain de la nomination de nouveaux chefs militaires dans la région de l'extrême nord du Cameroun, des éléments de Boko Haram ont perpétré un nouvel attentat suicide à Kerawa, la frontière avec le Nigeria. On compte trois morts, dont les deux kamikazes. Les précisions de Yaoundé avec Emmanuel Jules Tap.
L'attentat suicide s'est produit aux premières heures de la matinée à Kerawa, selon le préfet du département du Mayo-Sava, Babila Arua.
Bon, il y a deux kamikazes qui ont tenté d'entrer dans une mosquée et aperçus, ils ont activé leur charge.
Le dernier attentat kamikaze qui s'est produit à Kerawa date de janvier 2016 et avait visé une école primaire. Le 23 octobre 2015, ce village était tombé entre les mains de Boko Haram. Il avait fallu une journée d'intense combat pour que l'armée camerounaise reprenne le contrôle de Kerawa. Les terroristes de Boko Haram ont été particulièrement actifs au cours du mois de juin dans l'extrême nord du Cameroun, perpétrant une quinzaine d'attaques suicides. Les récents mouvements au sein de l'armée camerounaise consacrent désormais un dispositif dirigé par des hommes de terrain et aguerris contre le terrorisme. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Nouvelle violence dans l'est de la République démocratique du Congo. On a appris ce soir que deux militaires congolais et six miliciens ont été tués dans des combats les opposant dans la province du Nord Kivu. Bagassi Koura.
Selon le major Dike Kaiko, porte-parole de l'armée dans la région citée par l'AFP, les Mai Mai ont tendu une embuscade jeudi soir entre deux positions des FRDC, c'est-à-dire les forces armées de la RDC, près de Nyamilima. C'est à 5 km au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. Il souligne que le bilan fait état de deux FRDC et six Mai Mai tués, huit autres capturés dans des combats qui ont suivi jusqu'à ce matin. Les attaques des miliciens se sont multipliées au courant du mois de juin au Nord Kivu, où est apparu un groupe armé jusque-là inconnu. La première attaque d'envergure a eu lieu les 17 et 18 juin dans la localité de Kabacha, puis des combats à l'arme lourde ont fait 16 morts le 22 juin à Beni. Mercredi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait alerté l'armée congolaise sur ces attaques qu'il considère comme le prélude d'une nouvelle guerre dans l'Est congolais.
Et nous restons en RDC. Au moins 7 militants de la société civile ont été arrêtés aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. L'interpellation s'est produite alors qu'ils se préparaient à participer à une conférence interdite, d'après des organisateurs cités par l'AFP. La police a d'ores et déjà fait savoir qu'ils allaient être relâchés. Il faut dire que la conférence organisée par le collectif d'action de la société civile portait sur la mobilisation citoyenne pour le retour de l'ordre constitutionnel en 2017. Ces arrestations interviennent le jour de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La veille, dans un court communiqué, le président Joseph Kabila avait invité la population congolaise à célébrer cet anniversaire dans le calme et la méditation. Je regrette que pour des raisons de santé, je ne puisse cette année vous adresser mon message de manière traditionnelle, ajoutait le texte. Nous y reviendrons en partie magazine. Centrafrique, le procureur et 5 juges de la Cour pénale spéciale, CPS, qui doit instruire et juger les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre commis depuis 2003, ont prêté serment aujourd'hui. Les défis sont immenses de juger des crimes commis sur le territoire centrafricain depuis 2003, alors que les groupes contrôlent une partie du territoire, a déclaré Toussaint Muntasini, nouveau procureur de la CPS, la Cour pénale spéciale, créée légalement en 2015, mais pas encore opérationnelle, contre 11 juges étrangers, parmi lesquels ont déjà été nommés une Française, une Burkinabé, un Canadien, ainsi que 13 juges centrafricains, pour un total, en comptant le procureur, de 25 magistrats. La Cour devrait commencer son travail d'enquête à l'automne 2017 pour des raisons techniques, le temps de mettre en place le règlement de procédure et de preuves. Pour la deuxième fois, à moins d'un mois, des manifestants se réclamant de la société civile de Gao sont descendus dans la rue pour exiger le départ du gouverneur de la région. Conséquence de cette journée, les services publics et le commerce sont restés fermés toute la journée. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Ils sont plusieurs dizaines de manifestants, surtout des jeunes qui ont pris d'assaut le rond-point de la place publique en face du gouvernorat. Ils réclament le départ du gouverneur de la région de Gao. Comment ici ces jeunes manifestants?
On a reçu des informations que le gouverneur doit revenir à Gao, alors que pendant un bon moment, on avait demandé son départ. On ne veut plus de lui à Gao. Et l'ensemble de la société civile a déposé cet homme-là.
Rougeau, c'est son nom. Un jeune leader, lui, est très remonté contre le chef de l'exécutif.
Le gouverneur, on appelle Orange Money et... 10%. Parce que dès que vous devenez par rapport à une activité, ils cherchent toujours à avoir 10%. Même pour aller inaugurer une activité, ils cherchent toujours à un transfert Orange Money.
Le gouvernement malien, qui ne veut pas céder à la pression de la rue, n'a toujours pas répondu à la requête des manifestants. Conséquence de cette manifestation, le commerce est resté fermé, les services publics n'ont pas fonctionné, la ville est restée paralysée toute la journée. Il faut rappeler que la première manifestation par rapport au départ de l'actuel chef de l'exécutif remonte seulement au 7 juin dernier. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Sommet G5 Sahel, le président français assistera à la rencontre dimanche à Bamako. Emmanuel Macron entend apporter son soutien à la force conjointe de ces 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, contre la menace djihadiste. La dépouille de l'ex-roi du Burundi, Mwambutsa IV, a été réinhumée en Suisse à l'issue d'une longue bataille juridique. Renversé en 66, il s'est exilé dans ce pays où il est mort en 77. Il avait été inhumé près de Genève, conformément à son souhait exprimé dans son testament de ne pas être rapatrié au Burundi. Ses restes avaient été cependant exhumés afin que des funérailles nationales soient organisées dans son pays d'origine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. Une soixantaine de migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye. Tels sont les chiffres donnés par l'Organisation internationale pour l'immigration, se basant sur le récit des survivants. Les nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis prévues par le décret anti-immigration de Donald Trump sont entrées en vigueur depuis la nuit dernière. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le dispositif censé prévenir l'arrivée de terroristes étrangers interdit temporairement l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen, ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. Cependant, sont admis sur le sol américain les étudiants intégrant les universités, les salariés recrutés par les entreprises locales et les professeurs conviés à donner une conférence aux États-Unis. Une personne venant rendre visite à un membre de sa famille proche sera également admise. La notion de famille proche regroupe les parents, y compris les beaux-parents, les époux, enfants, fils ou filles adultes, gendres, belles-filles, les frères et sœurs entiers ou demi-frères et demi-sœurs. Sont donc exclus les grands-parents, petits-enfants, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, fiancés, beaux-frères et belles-sœurs. Ce nouveau décret suscite des inquiétudes. Nous serons prêts au cas où les gens ont besoin de nous, a fait savoir Gregory Chen de l'American Immigration Lawyer Association. De son côté, Rama Issa, directrice de l'Europe American Association of New York, s'alarme, je cite, « J'ai été élevé par mes grands-parents, donc je ne peux pas imaginer qu'ils soient considérés comme extérieurs à la famille. » Fin de citation. Le premier décret avait été suspendu le 3 février par un juge fédéral, tout comme la deuxième mouture du texte en mars.
Lutte contre le groupe État islamique en Irak. Bagdad se dit confiante dans la victoire très prochaine de ses troupes à Mossoul. 3 ans après le début de leur insurrection, les djihadistes sont pris aujourd'hui en étau dans leur dernier grand fief urbain en Irak. Avec l'aide de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, les forces irakiennes ont lancé en 2016 l'offensive pour reprendre le contrôle de Mossoul, la deuxième ville du pays. Et c'est le même son de cloche en Syrie voisine. Le groupe État islamique s'est totalement retiré de la province septentrionale d'Alep. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce retrait d'Alep a été confirmé de sources militaires syriennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Timothée Donangmaï, La Minute Éco.
L'Afrique du Sud pourrait avoir besoin d'une assistance extérieure pour sortir de sa crise économique, a fait savoir le ministre sud-africain des Finances, Malusi Gigaba, qui a appelé à des mesures drastiques pour lancer la croissance. Le président sud-africain Jacob Zuma a de son côté reconnu que le taux de croissance de 1,3% que s'est fixé le gouvernement pourrait ne pas être atteint. Il a appelé son parti, l'ANC, et ses alliés politiques à débattre des dossiers comme celui de la redistribution des terres comme moyen de doper l'économie nationale. Toujours en Afrique du Sud, la compagnie Coca-Cola a annoncé être parvenue à un accord avec le gouvernement pour la finalisation de l'acquisition par elle de 54,5% du capital de sa joint venture dans le pays. La compagnie a dit également qu'elle honorera sa promesse de porter à 30% la part des investisseurs noirs dans l'opération d'ici 2021. Enfin, bon résultat des services fiscaux du Cameroun qui ont collecté plus de 6,3 milliards de francs CFA en paiement de la vignette automobile pour les 6 premiers mois de l'année. C'est ce qui ressort des chiffres publiés jeudi par la Direction générale des impôts. Conséquence des réformes introduites, cette performance est d'autant plus appréciée qu'elle est en bonne voie pour dépasser les 7 milliards de francs CFA enregistrés pour les vignettes pour l'ensemble de l'année 2016.
Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Match de qualification en Ligue africaine des champions.
Oui, USM Alger Al Ahly de Tripoli, une rencontre décisive entre les deux leaders du groupe B. 7 points chacun. À suivre également dans le groupe A, Al Merrekh Al Hilal, 4 points chacun et tous en bas de classement.
Match décisif également en Coupe CAF aujourd'hui.
Oui, au bord de l'élimination, le Soumoua d'Égypte, dernier du groupe C avec 4 points, joue présentement son Vatou à domicile face à Zesco United de la Zambie. Eh bien, le Soumoua vient d'ouvrir le score et donc mène désormais 1-0 à quelques 5 minutes de la fin du match. Juste après, Platinum Star d'Afrique du Sud, dernier du groupe B déjà éliminé, sera face au MC Alger en tête de poule avec 8 points.
Le Zimbabwe et Madagascar rejoignent l'Angola et la Tanzanie en demi-finale de la Coupe COSAFA.
Tout à fait, et c'est sans surprise donc, puisque Zimbabwéens et Malgaches étaient déjà leaders du groupe B, ils le restent, sont donc éliminés. Le Mozambique tombé 4-1 devant Madagascar et les Seychelles qui ont été corrigées par le Zimbabwe 6-0.
Chili-Allemagne ce dimanche pour la finale de la Coupe des Confédérations.
Un choc à suivre à 18h temps universel entre le champion du monde et le double vainqueur de la Copa América. La jeunesse et l'enthousiasme de la Mancha face à la détermination et à la rigueur de la Aurora sud-américaine. Les deux formations s'étaient déjà neutralisées 1-1 en phase de poule de cette compétition.
Et puis une Africaine dans le tableau final de Wimbledon, nous parlons tennis.
Tout à fait, la Tunisienne Hans Jaber a battu donc l'Américaine Asia Muhammad 6-4, 6-0, décrochant pour la première fois sa place dans le tableau final du tournoi de Wimbledon. À 22 ans, elle a été la première africaine à atteindre un troisième tour en Grand Chelem à Paris lors du tournoi de Roland-Garros.
Et finissons en os, Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se marient ce samedi.
La star du football et sa compagne s'unissent officiellement dans leur ville natale Rosario, en Argentine donc. Loin des châteaux espagnols, tous les coéquipiers actuels barcelonais de Messi ont fait le déplacement, dont Neymar, Luis Suarez et Javier Mascherano. D'anciens coéquipiers en club comme Cesc Fabregas, Samuel Eto'o ou de sélection Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou Sergio Aguero vont être aussi de la partie.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission Les Dossiers du Jour. Le président camerounais Paul Biya a signé hier des décrets nommant de nouveaux généraux au ministre de la Défense. Il a d'abord décidé d'envoyer à la retraite 6 généraux de division, 3 de la gendarmerie nationale et 3 de l'armée de terre. Paul Biya a par la suite signé des décrets nommant 11 colonels au grade de général de brigade et général de brigade aérienne. Alors pour une analyse, John Lyndon, adjoint à Yaoundé, Manassé Aboya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
Ce réajustement des effectifs au niveau de l'armée intervient au moment où quelques généraux avaient atteint l'âge limite de rester en fonction. Ces généraux ont été justement passés à la deuxième section qui est synonyme de mise en retraite. Mais le langage codé au niveau de l'armée est celui du transfert à la deuxième section. Cela a absolument permis au président de la République de nommer de nouveaux généraux dans les différents corps d'armée, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air et puis la gendarmerie. Actuellement, il faut y voir un calendrier qui va être très, très, très chargé. Cela peut donner à lire un agenda politique qui permet effectivement de faire bouger les lignes dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'il y a 4 jours, c'était l'enseignement supérieur. C'est le tour de l'armée aujourd'hui. Et certainement, les prochains jours vont réserver des réajustements importants dans tous les secteurs de la vie politique, de la vie sociale au Cameroun.
On a vu dans d'autres pays africains les armées prendre ou entreprendre des actions qui parfois peuvent déstabiliser ou donner l'impression de déstabiliser des pays. Est-ce que le Cameroun est à l'abri de cela?
Je crois que le Cameroun a expérimenté une armée républicaine qui se met absolument au service des institutions. Et ces dernières années, justement, ont vu l'armée être déployée au front, notamment dans la guerre de Bakassi et dans la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Nous ne sommes pas encore au Cameroun au niveau d'entrevoir une armée pousser les velléités, justement, de conquête du pouvoir politique. L'armée, pour l'instant, reste une armée républicaine, fidèle aux institutions et au service du président de la République, qui est, par ricochet, le chef suprême des forces armées.
On peut s'attendre donc à un remaniement ministériel aussi, vous pensez?
Oui, puisque tous les analystes s'accordent là-dessus. Si on entrevoit la possibilité pour le président de la République de briguer un mandat supplémentaire, cela voudra dire qu'il y aura nécessité de procéder à un réajustement gouvernemental pour mettre en perspective une équipe de campagne qui va l'accompagner dans la conquête de ce mandat que certains estiment qui va être absolument incontournable.
Manassé Aboya Ndong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République démocratique du Congo, pas de festivités pour les 57 ans d'indépendance. Le président Joseph Kabila a annulé son discours de circonstance pour raison de santé. Les autorités appellent la population à plutôt commémorer la date du 30 juin dans la méditation. Eddy Sango a joint le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo.
Ce n'est pas la première fois qu'on arrive le 30 et que les Congolais réfléchissent sur leur sort. Je pense que ce sera un bon moment, une belle journée de méditation.
Depuis un certain temps, les gouvernements célèbrent avec la population, de ville en ville, chaque année, cette festivité. Donc, ce qui a été prévu à Guémena ou à l'Équateur n'aura pas lieu.
Eh bien oui, c'est-à-dire chaque ce gouvernement a son programme. Vous avez suivi que depuis un certain temps, il y a quelques mois où la récolonisation s'annonce, il est grand temps de s'arrêter pour réfléchir. Lorsqu'on ne vous considère plus comme un État souverain, vous devez vous arrêter de réfléchir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour défiler, il y a un temps pour réfléchir, pour s'interroger d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons.
Il y a eu cette attaque du commissariat de la police à Kinshasa la veille et depuis quelques jours, il y a des cas d'insécurité qui se multiplient. Est-ce que ce ne serait pas là la raison?
Pas nécessairement. Un pays, un cas d'insécurité où vous voyez les chefs de l'État se promener la nuit au Kassai, vous pouvez craindre ça. Mais lorsqu'il se rend jusque-là, là où on prétend parler du Cameroun dans sa politique, il y a outrance, il se promène la nuit à pied. Non, ce n'est pas pour cette raison-là. La raison, elle est claire. Nous devons réfléchir, nous devons méditer sur notre sort.
Vous parlez des récolonisations alors que ce sont les Congolais qui sont mécontents. On a par exemple cette menace de Nemwanda Nsemi qui a donné un ultimatum.
Et vous dites que ce sont les Congolais qui sont mécontents. Nemwanda Nsemi n'avait pas de problème avec l'État congolais. Nemwanda Nsemi, c'était juste un problème avec lui et sa femme. Il a pris une deuxième femme et sa belle famille était mécontente. Ils ont eu des problèmes entre eux où il a trouvé comment son beau-frère qui est actuellement vice-ministre de l'UTPR était au gouvernement. Il dit, bon, écoutez, parce que ça ne va pas avec son épouse, il doit tout faire pour que son beau-frère quitte le gouvernement. Ce n'est pas un problème que les Congolais sont mécontents. Ce sont des injonctions où on vous dit on doit s'amener pour faire des enquêtes, sachant très bien que ce sont des terroristes qui sont attaqués et à l'État. À la population.
Les évêques qui mobilisent la population.
Les Congolais vous disent quoi?
À des manifestations pour réclamer la mise en accord.
Les évêques ont appelé les gens à l'insurrection, à un soulèvement, c'est-à-dire que la situation socio-économique aujourd'hui est due au fait qu'on n'a pas organisé des élections. C'est faux. Peut-être mécontent de la part des évêques parce qu'ils ont échoué.
Voilà, c'était Basile Olongo, vice-ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité du Congo.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
En Côte d'Ivoire, les épreuves du bac ont débuté lundi et ce sont plus de 242 000 candidats au bac qui sont en compétition malgré une année scolaire perturbée par des crises sociales des enseignants. La première étape de ces examens est perturbée par l'absence de certains examinateurs. Plus de détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Yes, come on, come on.
Richard refuse the consummation.
Comme cette candidate, ce sont 242 910 candidats au bac 2017 qui passeront par l'épreuve orale en français, en anglais, en allemand, en espagnol avant la phase écrite. Pour Yao Rachel, en classe de terminale A, le sujet qui a été proposé est pour elle une occasion pour sensibiliser ses amis sur les effets négatifs de la consommation de la cigarette en milieu scolaire.
C'est abordable, c'était bien, surtout que dans ces temps, on fait des spots à la télé pour sensibiliser les fumeurs. Alors c'est une bonne occasion pour leur dire d'arrêter. La cigarette, c'est pas bien.
Au lycée Sainte-Marie de Cocody, une longue file d'attente. Luzette Ouattara-Grasse, candidate au bac A2, attend son tour de passage depuis 7 heures du matin. Malgré le stress, elle garde toutefois le sourire et l'espoir.
Pour le moment, on est juste en attente là parce qu'il y a d'autres candidats qui doivent passer aussi. Donc on les attend et puis ça va suivre quoi. À chacun son tour. Je peux pas dire que je suis prête, mais je veux dire que je me suis apprêtée en conséquence de cause aussi. Ça passe ou ça casse. Forcément, c'est sûr que ça va passer.
Dominique Nguessan-Kouassi, secrétaire du centre du bac de Sainte-Marie à Abidjan-Cocody, justifie ses longs files d'attente par l'absence de certains examinateurs.
Au niveau des examinateurs, nous sommes achevés sur deux examens. Le BPC, dont la délibération a commencé hier, et beaucoup d'examinateurs qui doivent interroger sont à la délibération de l'examen du BPC. Et ça perturbe fortement le déroulement normal des épreuves orales. Quant aux candidats, ils sont beaucoup hésitants. Il y a beaucoup de candidats libres. Donc souvent, ils ne pressent pas le pas. Ils viennent souvent les derniers jours. En français, nous avons programmé 90 candidats. 48 ont répondu présent, soit un taux de 53,33%. Examinateurs en français, 3 prévus, 2 ont répondu présent. En espagnol, nous avons prévu 50 candidats. Il y a 28 qui ont pu composer effectivement. Il y a un examinateur, il était le seul, il est présent. Donc sur les 25, 13 étaient présents.
355 273 candidats au BPC qui ont déjà bravé les épreuves et attendent leurs résultats. Le bac est le dernier de cette série d'examens qui mettra fin à ces examens scolaires à grand tirage. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Retour sur le décret anti-immigration du président Trump ici aux États-Unis. La Chambre des représentants a entamé hier le processus de mise en application de deux promesses clés de Donald Trump. Premièrement, renforcer les sanctions contre les sans-papiers qui retournent aux États-Unis après avoir été expulsés. Deuxièmement, couper les fonds fédéraux alloués à des villes sanctuaires qui refusent de collaborer avec les agents d'immigration. Quelles sont les implications pour les familles en deuil et les sans-papiers à travers le pays? Suivez ce reportage de Catherine Gibson, présenté par Eric Maniracchisa.
Donald Trump, alors candidat, avait déclaré que Sarah Root est morte en raison de lâche loi migratoire. Encore un enfant à sacrifier sur l'autel des frontières ouvertes. Ruth venait d'obtenir son diplôme universitaire quand elle a été tuée par un sans-papier présumé qui conduisait en état d'ébriété. Sa mère, Michelle Ruth, est inconsolable.
Je ne vais jamais lâcher et laisser tomber sans battre. Elle le mérite.
Bien qu'il n'existe aucune preuve que les sans-papiers commettent plus de crimes que les autres personnes, Ruth et d'autres familles trouvent leur réconfort dans des sanctions plus sévères.
Nous aimerions ne pas avoir un autre étranger illégal commettre un crime, mais c'est irréaliste.
Un projet de loi réprimant les immigrants qui reviennent aux États-Unis après être expulsés et sanctionnant les villes sanctuaires a été pleinement soutenu par le président Trump en invitant les familles à la Maison-Blanche et en envoyant au Capitole son secrétaire à la sécurité intérieure.
Pour les familles et les victimes touchées par des crimes commis par des immigrants illégaux, les villes sanctuaires sont tout sauf sûres.
Selon un député démocrate, les immigrants sans papier comptent sur la protection de ces villes sanctuaires.
C'est un abri sécurisé pour les personnes qui s'occupent de nos familles, de nos récoltes et prennent soin de nos parents. Ce projet de loi est anti-américain.
Et il juge l'autre projet discriminatoire à l'égard des sans-papiers qui respectent la loi. Rien n'assure que les sans-papiers vont être dissuadés par la nouvelle loi, souligne l'activiste Molly Gill.
Il est beaucoup plus efficace de renforcer la certitude que les gens qui viennent illégalement seront arrêtés que de les menacer d'une longue peine d'emprisonnement qu'ils ne connaissent même pas.
Les républicains de la Chambre assurent que leur démarche soutiennent l'une des promesses de campagne du président pour assurer l'ordre public, le député Scott Desjarlais du Tennessee.
Le président Trump réprime les crimes migratoires, les passages frontaliers illégaux sont en baisse et les arrestations et les expulsions d'étrangers criminels sont en hausse, tels que les Américains l'ont exigé en novembre dernier.
Mais d'autres faces de l'agenda du président demeurent incertaines et il ne restait que quelques semaines avant les vacances d'été. Les républicains estiment que ce renforcement de l'application des mesures migratoires constitue une victoire importante.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Zurniak à la console, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.